En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bien, maintenant nous allons passer à ce qui fait l'essentiel de notre ordre du jour aujourd'hui, la communication de M. Jean-Pierre Cotte, juge au tribunal international du droit de la mer, sur le tribunal international du droit de la mer. M. Jean-Pierre Cotte, agrégé des facultés de droit, a enseigné à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Puis il a été député de la Savoie, ministre délégué chargé de la coopération et du développement et membre du Parlement européen. Il s'est ensuite orienté vers la justice internationale. Il a été avocat et conseil devant la Cour internationale de justice et juge ad hoc dans cette Cour, ainsi d'ailleurs qu'au tribunal international du droit de la mer, où il a été élu juge depuis 2002 et où il siège depuis cette époque. Et il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles de droit international ou constitutionnel. Monsieur le juge, je vous donne la parole.
C'est là-dessus. Excusez-moi, je me mélange toujours les boutons. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas trop grave. Je tiens à vous remercier, monsieur le président, pour cet honneur et ce plaisir de présenter une institution judiciaire internationale assez peu connue, assez discrète, et c'est d'autant plus un plaisir pour moi. Notre institution est en effet le Tribunal international du droit de la mer. On me le soulignait à l'instant, ça tombe bien, en plein Vendée Globe. C'est donc une occasion pour nous, pour moi, de vous donner quelques indications sur notre tribunal. De plus, c'est le 20e anniversaire de notre tribunal qui s'est mis en place en 1996. 20 ans, c'est toujours un anniversaire intéressant. On arrive à maturité. Au demeurant, lors de nos festivités, nous avons été honorés de la présence de Ban Ki-moon et du président de la République fédérale allemande, M. Gauck, qui a d'ailleurs fait une remarquable intervention sur la justice internationale en général, la Cour internationale de justice aussi bien que notre tribunal, et sur la place justement du tribunal dans le mécanisme de règlement des différends. 20 ans, je le disais donc, c'est l'âge de la majorité légale dans la plupart, dans un grand nombre d'États, et c'est un bon moment pour faire le point sur une institution. Le tribunal a été créé lors de la signature, enfin de l'adoption de la Convention nationale des Nations Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, et il est entré en fonction en 1996. Première question, ce tribunal était-il nécessaire? Ce n'était pas évident à l'époque, si je me souviens bien. Aussi peut-il être intéressant de voir pourquoi il a été créé. En 1982, la Cour internationale de justice était dans une mauvaise passe, si je puis dire. Elle n'était pas bien vue des États du tiers-monde, qui la considéraient comme une institution européenne, occidentale. Il y avait donc, à ce moment-là, une réaction du tiers-monde qui était entrée depuis la création de la Cour internationale de justice, qui date de 1920, comme chacun le sait, ou de 1946, 45-46, si l'on veut. Mais il y avait une pression de la part du tiers-monde pour demander que place soit faite aux nouveaux États dans le fonctionnement de la justice internationale. La solution a été de créer cette nouvelle institution. Ça a été aussi pour faire de la place, de jouer sur l'inflation, et nous sommes passés des 15 juges du tribunal de la Cour internationale de justice à 21 juges pour le tribunal international du droit de la mer. Et les juges sont élus par l'Assemblée des États parties, alors que les juges de la Cour internationale sont élus par l'Assemblée générale des Nations unies et par le Conseil de sécurité, donc avec une certaine garantie de représentation, si je puis dire, du Conseil des membres permanents du Conseil de sécurité. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. Je constate d'ailleurs que les États-Unis sont absents parce qu'ils ne sont pas membres de la Convention sur le droit de la mer, mais aussi que le juge britannique David Anderson a été battu en 2002, bien que membre permanent du Conseil, ressortissant d'un état permanent du Conseil de sécurité, et que moi-même j'ai été réélu avec quelques difficultés en 2011, dangereusement menacé par un candidat de Malte. Donc c'est dire que l'équilibre général de notre institution est un équilibre assez différent de celui de la Cour internationale de justice, et que le tribunal se souvient volontiers de sa coloration tiers-mondiste, sinon dans son fonctionnement au quotidien, du moins dans les principes. Notre tribunal est une petite boutique. Une petite boutique, surtout comparée à la Cour internationale de justice. Nous n'avons pas du tout l'organisation, les moyens de travail, le personnel de la Cour internationale de justice, et au demeurant, le luxe de moyens de la Cour internationale de justice nous fait envie. Nous avons 21 juges qui sont des juges de qualité, qui sont des juges à mi-temps. Car en effet, nous ne siégeons pas en permanence. Notre allocation de base, il faut bien parler argent de temps en temps, est un tiers de celle de la Cour internationale de justice. S'y ajoutent des vacations par jour de session. Les participants à la conférence sur le droit de la mer, qui avait donc fixé ces principes, avaient calculé les indemnités sur la base d'un plein temps du tribunal. Nous en sommes très loin. Nous avons un nombre modeste d'affaires et par conséquent un nombre modeste de rémunérations. Nous travaillons seuls, contrairement à la Cour internationale de justice. Là encore, nous sommes les petits derniers. Nous n'avons pas d'assistant. Un juge n'a pas d'assistant. Nous n'avons pas de clerk, comme disent les anglo-saxons, contrairement à la Cour internationale de justice. Nous avons une secrétaire pour 5 ou 6 juges pendant la session, et nous tapons nous-mêmes nos notes et nos articles sur notre ordinateur. Heureusement qu'il y a aujourd'hui les ordinateurs, sans ça je ne sais pas très bien comment nous nous aurions fait. Nous avons la chance d'avoir un excellent greffier, M. Philippe Gauthier, qui est entouré d'une toute petite équipe de 5 ou 6 juristes, pas plus, ce qui n'est pas grand-chose, plus évidemment le personnel correspondant, en tout une quarantaine de personnes, chauffeurs compris. Et c'est à cette aune qu'il faut juger de l'efficacité du tribunal international du droit de la mer. De nouveau, nous sommes une petite boutique. Nous avons quelques spécificités. Nous avons d'abord, excusez-moi, je me mélange un peu dans mes papiers. D'abord, en ce qui concerne la compétence. La compétence du tribunal international du droit de la mer, c'est l'interprétation et l'application de la convention de Montego Bay, la convention de 1982 sur le droit de la mer. Cette convention a une particularité, qui est de prévoir le règlement obligatoire des différends relatifs à son interprétation et à son application. C'est la partie 9 de la Convention. C'est là une disposition tout à fait ambitieuse. Je crois que c'est la seule grande convention internationale qui prévoit le règlement obligatoire des différends relatifs à son interprétation et à son application. La plupart des conventions majeures prévoient un système de déclaration facultative ou bien l'insertion de clauses compromissoires, mais non pas une compétence générale comme celle prévue par la convention de Montego Bay. Compétence obligatoire, disposition ambitieuse, un rien factice, il faut bien le dire, quand on y regarde de plus près. En effet, les parties sont obligées, en cas de différend dans l'interprétation ou l'application de la convention, sont obligées de régler leurs différends par négociation ou par recours à une procédure obligatoire. Et dans ce dernier cas, si elles n'ont pas parvenu à se mettre d'accord par négociation, elles ont le choix entre le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de justice, un tribunal arbitral, un arbitrage donc, ou un tribunal arbitral spécial. C'est un cas particulier pour certains types de litiges. À défaut d'accord entre les parties sur une de ces instances judiciaires, c'est le tribunal arbitral, l'arbitrage donc, qui est l'institution judiciaire de repli, et non pas le tribunal international du droit de la mer, comme on aurait pu le penser du fait de la conclusion de la convention sur le droit de la mer et de l'institution d'un tribunal exprès pour traiter de ces litiges. J'ajoute que, toujours un autre bémol quant à la compétence obligatoire du règlement judiciaire, les parties ont la possibilité de formuler des réserves dans leur acceptation, ou plutôt dans leur adhésion au mécanisme de juridiction obligatoire. Ces réserves sont encadrées, sans doute, elles ne sont pas toutes permises, mais elles sont très larges. Enfin, j'ajoute, et c'est peut-être le plus important dans ce que j'ai pu vivre concrètement dans mon expérience du contentieux, le mécanisme des clauses compromissoires. Les clauses compromissoires, qui sont ces clauses inscrites dans les traités internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, et qui prévoient, en cas de différend, la saisine d'une instance judiciaire. Ce sont une bonne partie des litiges qui sont portés devant la justice internationale en général et devant le tribunal en particulier sont en effet le résultat de la clause compromissoire du traité dont l'interprétation et l'application est une difficulté. Or, ces clauses compromissoires se réfèrent très rarement au tribunal international du droit de la mer et ceci pour une raison tout simplement chronologique. Le Tribunal international du droit de la mer a été mis en place, je le rappelais tout à l'heure, en 1996, c'est-à-dire très tardivement. Or, la plupart des grands traités bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus bien avant cette date, c'est-à-dire avant que le Tribunal international n'existe, y compris les grandes conventions sur le droit de la mer. Et donc, il y a là un manque, si je puis dire, de clauses compromissoires en ce qui concerne le tribunal. Alors, le tribunal lui-même, quelques indications sur son fonctionnement. D'abord, une procédure consultative. Non, je m'excuse, je suis en train de... Oui, bah, écoutez, je commence par la procédure consultative. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'aurais dû être mieux organisé. Le tribunal a donc une compétence contentieuse et une compétence consultative. La compétence contentieuse est une compétence ordinaire. Je ne m'attarderai pas dessus, au demeurant, puisqu'elle ressemble fort bien à celle de tout tribunal international ou de nombreux tribunaux internes. En revanche, la procédure consultative est une procédure plus intéressante et plus discutable. Il y a en réalité deux procédures consultatives dans le cadre du tribunal international du droit de la mer. L'une prévue par la Convention sur le droit de la mer et l'autre inventée par le tribunal lui-même et contestée au demeurant à ce titre. La première procédure consultative, c'est celle qui est prévue par la chambre du tribunal des fonds marins. C'est une spécificité du tribunal, en effet, que d'avoir dans le cadre de sa structure un autre tribunal. Une chambre des fonds marins qui est une chambre qui est indépendante du tribunal, bien que formée par des juges du tribunal. Et c'est en quelque sorte donc un tribunal dans le tribunal. Cette chambre a été mise en place au moment de la conclusion de la convention du Montego Bay. Et alors, au demeurant, que l'on pensait que l'exploration des fonds marins, et en particulier l'exploitation des nodules, c'était à l'époque ce qui paraissait le plus intéressant, serait importante. La réalité a été plus modeste que ne le pensaient les rédacteurs de la Convention. Reste que les fonds marins, dans l'avenir, peuvent devenir un élément important d'exploration, d'exploitation et donc de conflits, de contentieux. L'exploration des fonds marins au-delà des zones relevant de la souveraineté ou des droits souverains des États membres, dans ces cas-là, pose un problème de compétence en cas de litige quant aux conditions de cette exploration et exploitation. Ici, la Convention a introduit la notion de patrimoine commun de l'humanité pour l'exploitation de ces zones se situant au-delà de la souveraineté des États riverains, en formulant deux idées. Premièrement, l'idée d'un partage de technologie dans l'exploitation des fonds marins, forte demande des pays en voie de développement qui craignaient sans cela que l'exploitation des fonds marins ne fût entièrement confisquée par les pays qui en avaient la capacité technologique. Et associé à cela, un mécanisme de partage des ressources résultant de l'exploitation des fonds marins. Tout ceci est resté un petit peu théorique à ce stade, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'exploitation des fonds marins n'a pas répondu en vérité aux espoirs qui étaient alors formulés, ou n'a pas encore répondu aux espoirs qui étaient alors indiqués. Or, pour prévoir le règlement de ces différends relatifs aux fonds marins, et donc à l'exploitation et à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins, le Tribunal international du droit de la mer était lui-même peu apte à résoudre ce type de conflit, car c'est un tribunal interétatique, et donc qui ne fait pas entrer en ligne de compte et dans le contentieux les acteurs privés. C'est la raison pour laquelle la Convention de Montego Bay a prévu la création d'une chambre des fonds marins, ouverte aux États parties, mais aussi à l'autorité des fonds marins, qui est l'autorité instituée par la Convention pour organiser l'exploitation des fonds marins, aux parties privées, donc à un contrat d'exploitation, que ce soit les entreprises d'État, les personnes physiques ou personnes morales, qui, elles, peuvent recourir à la Chambre des fonds marins en cas de difficulté. À cela s'ajoute la possibilité pour cette Chambre des fonds marins de donner des avis consultatifs à la demande de l'Assemblée et du Conseil. J'en viens maintenant à la procédure consultative elle-même. La procédure consultative est prévue, je viens de l'indiquer, pour la Chambre des fonds marins. Rien, en revanche, n'était prévu dans le traité en ce qui concerne la possibilité de saisir le tribunal lui-même d'avis consultatif. Et c'est le tribunal qui, dans son règlement, plus précisément dans l'article 138 de son règlement, a prévu la possibilité de sa saisine dans le cadre d'une procédure consultative par l'article 138 du règlement. Cet article 138 a été appliqué récemment dans une affaire relative au golfe de Guinée. Les États riverains du golfe de Guinée ayant saisi le tribunal pour donner un avis sur le problème de la pêche dans le cadre du golfe de Guinée au-delà des eaux territoriales des États membres du golfe de Guinée. Cette possibilité de donner un avis consultatif par application d'un article du règlement, donc adopté par le tribunal lui-même, sans demander la permission à quiconque, si je puis dire, a été contesté par un certain nombre d'États qui considéraient cela comme étant un abus de pouvoir, et notamment par la Grande-Bretagne, qui a été sans doute la plus en pointe pour contester la régularité, je n'ose dire la légalité, de la démarche du tribunal. Cela dit, nous le savons bien, les extensions de compétences en matière judiciaire ne sont pas choses nouvelles, sans remonter à Marbury contre Madison, qui était déjà un petit peu poussé. Le Conseil d'État, en 1873, dans l'arrêt Blanco, n'a rien fait d'autre que d'inventer une compétence contentieuse qui ne se trouvait dans aucun texte préalable. Ces petits coups de force juridictionnels sont donc choses fréquentes, enfin en tout cas ne sont pas inusitées en matière juridictionnelle. Et je constate au demeurant que le petit coup de force du tribunal lui-même n'a pratiquement pas été contesté lors des réunions des États parties et n'a pas été contesté lorsque la procédure consultative dans l'affaire du golfe de Guinée a été mise en place. Il y a eu de nouveau quelques protestations de la part notamment de la Grande-Bretagne, mais pour l'essentiel, cela n'a pas fait de vague et n'a pas été remis en cause lors des réunions annuelles de l'Assemblée des États parties de la Convention du droit de la mer, où les États auraient pu contester cette démarche, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, je voudrais peut-être donner quelques indications, ou plutôt tenter une comparaison, Monsieur le Président, entre le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de justice, si j'ose, en votre présence. Lorsque le Tribunal international du droit de la mer a été créé, les auteurs, les pères du Tribunal du droit de la mer, souhaitaient une juridiction qui fut plus rapide, plus leste, je dirais, que la Cour internationale de justice. Qu'en est-il après un temps d'application? D'une part, je constate que la Cour internationale de justice, depuis cette époque, a fait de grands progrès en matière de traitement des affaires internationales, et en particulier en matière de rapidité de traitement des affaires internationales, et notamment sous votre présidence, Monsieur le Président, puisque vous aviez eu à souhait, justement, de mettre la Cour internationale de justice en ligne à cet égard. D'autre part, le tribunal lui-même maîtrise avec une célérité tout à fait acceptable Les procédures. D'abord, les procédures d'urgence, et il est à noter que le tribunal a commencé par faire de l'urgence. Pendant la première dizaine d'années, le contentieux porté devant le tribunal international était essentiellement celui de la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires, c'est-à-dire lorsque un navire est bloqué dans un port pour quelque raison que ce soit par les autorités du port. Il y a une procédure spécifique de l'article 292 de la Convention, qui est une procédure qui permet... en vérité, à l'état du pavillon, mais aussi à l'armateur au nom de l'état du pavillon, de saisir immédiatement le tribunal, qui est tenu dans un délai. L'ensemble de la procédure fait une trentaine de jours, ce qui est très rapide au regard de la lenteur des procédures judiciaires internationales. Dans une trentaine de jours, le tribunal examine la question de l'immobilisation du navire, ordonne éventuellement la main levée de cette immobilisation, moyennant une garantie financière qui est fixée par le tribunal. Et donc, c'est une procédure rapide, c'est une procédure d'urgence qui a fort bien marché au début, qui a tellement bien marché d'ailleurs que, en fin de compte, à partir du moment où le tribunal a fixé le niveau des garanties correspondantes, les États ont appliqué en réalité la norme prévue par le tribunal et ont tari la source de ces belles affaires qui nous venaient régulièrement jusqu'à il y a une dizaine d'années. Cette procédure-là est une procédure qui n'est pratiquement plus appliquée. La dernière fois, ça a dû être en 2010, je crois, pour les affaires Oshimaru et Tomimaru qui opposaient le Japon à la Russie. Pour les procédures portant sur le fond, en revanche, je constate que les délais sont très comparables entre la Cour internationale de justice et le tribunal. D'abord, la procédure écrite prend le temps que ça prend, l'urgence n'étant pas en soi une vertu, et les délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite, mémoire contre mémoire, sont tout à fait comparables. En ce qui concerne la procédure orale, c'est un peu la même chose, il n'y a pas de différence fondamentale. La seule raison pour laquelle le tribunal est quand même sensiblement plus rapide que la Cour internationale de justice, c'est parce qu'il a moins d'affaires, c'est parce que son rôle est moins chargé. Et parce que de ce fait, lorsqu'une affaire est déposée au tribunal, elle est assez rapidement inscrite au rôle et la procédure est lancée beaucoup plus rapidement qu'à la Cour internationale de justice. Aujourd'hui que la Cour a peu à faire, elle est probablement à peu près à la même vitesse, si je puis dire, que le tribunal. Mais il y a quelques années encore, il ne suffisait pas d'introduire une affaire à la Cour, il fallait encore attendre de longues années que l'affaire fût inscrite au rôle de la Cour. Un mot sur une crainte qui a été exprimée lors de la création du tribunal et renouvelée depuis à plusieurs reprises, moins récemment, celle d'une zizanie jurisprudentielle résultant de la multiplication des tribunaux internationaux et la création, après la Cour internationale de justice, du tribunal international pour le droit de la mer, mais encore des couacs qui avaient été notamment notés du côté des juridictions pénales internationales au regard des décisions de la Cour internationale de justice. Cette zizanie ne s'est pas avérée en ce qui concerne les relations entre la Cour internationale de justice et le tribunal. Le tribunal a pris soin, de propos délibérés, de s'inscrire fidèlement, dirais-je, dans le sillon de la jurisprudence de la Cour internationale de justice et de ne pas la contredire dans ses propres décisions. Il cite en abondance les arrêts de la Cour internationale de justice dans sa propre jurisprudence et a eu le plaisir récemment de voir que la Cour internationale de justice lui rendait la politesse en citant certains de nos arrêts, ce qui nous a évidemment fait bien plaisir venant de la grande sœur. Au demeurant, les contacts sont fréquents entre la Cour internationale de justice et le Tribunal international du droit de la mer, entre les deux greffiers, les deux Philippe, si je puis dire, M. Couvreur et M. Gauthier. Je devrais quand même connaître le nom de mon greffier et M. Gauthier. Mais encore, réunion entre les juges et à tel point que René Abraham, le président actuel de la Cour internationale de justice, est en même temps juge ad hoc, c'est-à-dire désigné par une partie qui n'a pas de juge sur le siège, au Tribunal international du droit de la mer, et que nous avons le plaisir, l'honneur, d'avoir comme collègue dans notre délibération, dans une affaire en pendante, le président de la Cour internationale de justice comme juge ad hoc. J'en terminerai, Monsieur le Président, en posant la question, fallait-il créer le Tribunal international du droit de la mer ? Je la repose, vous étiez à ce moment-là dans les affaires, si je puis dire, au titre de la France. Je ne suis pas sûr que la France ait été très enthousiaste de cette création, mais bon, le tribunal a été créé. Maintenant qu'il est créé, c'est chose faite. Et je crois que ceci ayant été décidé, le tribunal a trouvé sa place parmi les juridictions internationales. Il a une jurisprudence qui, me semble-t-il, est honorable. Les conflits de compétences éventuels avec d'autres juridictions internationales et notamment avec la Cour internationale de justice ont pu être évités ou réglés à la satisfaction de tous. Donc je pense qu'en l'état actuel des choses, le tribunal remplit une fonction qu'on a pu estimer comme superflue au début, mais qui aujourd'hui est acceptée par tous et que nous tenons une place honorable dans le cadre de la juridiction internationale. Merci, Monsieur le Président.
Je vous remercie beaucoup de nous avoir fait pénétrer, je dirais, dans l'arrière-cour de la création et des juridictions internationales et de leurs relations. Et maintenant, je vais ouvrir le débat. Je vous en prie, le professeur Soutou.
Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est avec le plus grand intérêt que j'ai écouté votre communication. Je suis historien, donc pas exactement dans l'axe, mais enfin, ces axes convergent. Je vais y revenir une seconde. J'aurais une question très précise à vous poser, qui, due à mon ignorance, la réponse est peut-être immédiate. Est-ce que cette cour a à rendre compte des actes de piraterie ? Est-ce que ça entre dans son domaine ou pas ? Alors, question peut-être plus prospective. Nous considérons, nous autres historiens, que le droit maritime est au fond à l'origine du droit international. L'origine chronologique, j'ai pas dit l'origine intellectuelle ou juridique au sens propre. À partir de la Méditerranée, dès la fin du Moyen-Âge. Du coup, étant donné les caractéristiques particulières de ce tribunal, étant donné qu'il porte sur une zone de la planète qui n'est pas soumise à la souveraineté nationale, ou du moins pas entièrement, la mer est libre, hein, bon, dans les limites que vous avez évidemment rappelées, étant donné qu'on a vu apparaître à partir de la Convention de Montego Bay la notion de patrimoine commun de l'humanité. Est-ce que l'on a là une orientation possible pour l'évolution de la justice internationale qui est diverse, multiple et fort complexe, j'ai bien dit une orientation possible en direction de ce que l'on appelle parfois une juridiction souple, voire un droit flou. Enfin bon, vous connaissez mieux que moi ces catégories. Je vous remercie.
Merci.
Je vous remercie.
Oui, oui, je vais répondre à M. Soutou. D'abord sur la question de la piraterie. Le Tribunal international du droit de la mer, j'aurais dû peut-être le préciser davantage, est une juridiction interétatique, c'est-à-dire que les parties au tribunal sont nécessairement des États. Donc, la répression de la piraterie impliquant rarement un État pirate, ça n'existe pas à ma connaissance, en tout cas en droit, même si en fait on peut avoir une opinion différente. Je ne vois pas très bien comment le tribunal peut se saisir d'une affaire de piraterie. Il ne pourrait s'en saisir que si effectivement un État tiers était impliqué d'une manière ou d'une autre en tant qu'État du pavillon, protégeant des pirates ou quelque chose comme cela. À ce moment-là, nous aurions un contentieux entre deux États qui pourraient venir chez nous. Mais autrement, la piraterie étant en fin de compte une affaire de droit interne de chacun des États concernés et de coordination entre les politiques des États ne touche qu'indirectement aux relations interétatiques. C'est vrai qu'elle repose sur des accords interétatiques, je pense de nouveau à la mer Rouge par exemple, et au golfe d'Aden et à la répression, les accords sur la répression de la piraterie dans la mer Rouge, mais c'est par l'intermédiaire de l'application de ces accords que l'affaire pourrait venir chez nous, ou pourrait d'ailleurs venir à la Cour internationale de justice. En ce qui concerne le droit maritime, le droit de la mer et le droit international public, vous avez raison de souligner que le droit international public a largement été à l'origine un droit de la mer et en liaison avec le droit maritime, car ça a été une des sources du développement du droit international public. Droit maritime et droit de la mer, je précise juste le petit point de vocabulaire. Le droit maritime étant l'aspect droit privé, si je puis dire, les relations avec les navires, avec les armateurs, le droit de la mer étant l'aspect droit international public, relations entre États, à l'occasion d'ailleurs des questions de droit maritime. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question ? Pardon, oui.
Avec peut-être la prospective vers une évolution possible du droit international selon les principes particuliers de ce tribunal.
Oh, écoutez, je ne crois pas que ce tribunal ait des principes particuliers. Je crois que la mer a des principes particuliers, vous avez raison, que le droit de la mer est un droit en pleine évolution et que... il va se modifier du fait des progrès technologiques formidables que nous connaissons aussi, touchant l'exploitation de la mer et des fonds marins, et qu'il y aura à ce moment-là, on peut prévoir des développements importants dans le droit de la mer. Le tribunal enregistrera ensuite et codifiera, entre guillemets, dans la mesure où les affaires viennent à lui, mais ce sera aussi le cas des autres juridictions internationales, interviendront pour la mise en musique, en quelque sorte, de ces développements nouveaux. Mais je ne crois pas que le droit maritime, le droit de la mer, en tant que tel, va modifier profondément la structure, je dirais, du droit international public tel que nous l'appliquons, et la Cour internationale de justice, comme le tribunal, applique le droit international public.
Je vous remercie. Monsieur Lévite.
Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, de cette présentation. Je voulais vous poser une question très, très sensible, qui est celle de la mer de Chine du Sud. C'est la Cour permanente d'arbitrage de La Haye qui, le 12 juillet, a eu, et vous étiez un des acteurs de cette ce grand moment a eu à se prononcer sur la situation juridique de la mer de Chine du Sud, donnant raison aux Philippines et donc tort à la Chine. Et je voulais vous poser la question de savoir quels étaient les commentaires qui, rétrospectivement, vous pouviez nous faire, à la lumière notamment de la visite du président Duterte en Chine récemment. Merci beaucoup.
En effet, l'affaire de la mer de Chine a été une affaire importante et reste une affaire importante. Je voudrais d'emblée dire que j'ai eu en effet l'honneur et le plaisir de faire partie de ce tribunal arbitral, présidé par le juge Mensa, le juge ghanéen, et que c'était une affaire à la fois juridiquement complexe et politiquement très sensible. Et je dis d'emblée que notre décision arbitrale, que je trouve bonne, mais je suis de parti pris, aura peut-être et à long terme un certain effet, mais croire que ça s'appliquera comme ça, certainement pas. Et au demeurant, je crois que ceci n'est qu'une manifestation de l'ensemble de problème classique de l'applicabilité des règles de droit international. Nous savons bien que le droit international, dans la société internationale, ne règle pas tout et qu'il n'est pas toujours appliqué, qu'il n'est pas toujours respecté. J'ai tendance à croire, justement, que l'affaire de la mer de Chine, de ce point de vue-là, mérite réflexion, parce que je suis persuadé que lorsque le dialogue se rétablira, et d'ailleurs le fait même que le président Duterte, maintenant, s'engage dans la voie du dialogue, à ce moment-là, reviendront des éléments de cet arbitrage que nous avons lancé, que la Chine avait violemment refusé au début, nous traitant même d'imbéciles, ce qui n'était quand même pas très aimable pour les membres du tribunal. Mais je crois que les choses avancent, y compris sur des questions très, très, très techniques. Dans cette affaire, par exemple, et nous avions à nous poser des problèmes importants sur la question des récifs coralliens et sur le problème de souveraineté sur les récifs coralliens, puisque la mer de Chine, les îlots de la mer de Chine du Sud sont largement des îlots coralliens. Et nous avons eu un certain mal, d'ailleurs, à nous renseigner sur les îlots coralliens. Il y a peut-être de grands spécialistes ici dans cette salle sur cette question, plus probablement à l'Académie des sciences, mais je dois dire que nous avons eu un mal de chien à trouver des spécialistes, des experts qui puissent nous donner des indications utilisables pour notre affaire sur les récifs coralliens. Et nous avons fini par obtenir un très remarquable rapport d'experts sur les récifs coralliens qui nous a permis d'avancer dans cette question, mais qui en plus, je crois en soi, est déjà un instrument de travail tout à fait utile pour ceux d'entre vous qui auraient à l'avenir à réfléchir aux conséquences juridiques du récif corallien, de sa fragilité, à ses possibilités de régénération. Je peux vous en parler pendant quelques temps si ça vous intéresse beaucoup, mais je crois, Monsieur le Président, que ça dépasserait un peu les limites de notre discussion. Et pour revenir donc à l'affaire de la mer de Chine, je crois que c'est un bon exemple de la portée du droit international public en relation avec une situation politique tendue. Ça ne servira pas à grand-chose dans l'immédiat. Je crois que ça peut être un instrument très utile pour que le moment venu, il y ait des points de repère auxquels les parties puissent se reporter, des règles de base sur lesquelles elles puissent s'appuyer, et que la négociation nécessaire, car ça se traduira par la négociation nécessaire, sera obligée d'en tenir compte. Je ne dis pas tout de suite. Par exemple, je m'excuse d'être un peu long là-dessus, mais j'en sors, si je puis dire, sur la question. La Chine avait établi une ligne de ce qu'ils appellent une nine dash line, une ligne de neuf traits marquant ses prétentions dans la zone de Chine. Le tribunal a clairement considéré que cette ligne n'était pas une, ne pouvait être interprétée qu'en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et ne pouvait donc pas être une revendication de souveraineté en tant que telle. Et il appartient maintenant à la Chine de clarifier la question. Ce qui ne sera pas facile, parce que je ne sais pas si vous avez un peu la familiarité des relations juridiques avec la Chine. Ce qui me frappe en droit international, c'est l'extrême difficulté d'arriver à saisir une position chinoise. C'est toujours très ambigu et très flou, toutes ces avancées, toutes ces affirmations, ces prétentions sont dans un brouillard très calculé. Qui, je crois, pour partie, mais certains et certaines ici connaissent mieux la Chine que je ne le connais, bien sûr, tient à la, je dirais même à la, à des problèmes conceptuels de la culture chinoise et de la culture juridique chinoise, mais ça ne facilite pas la chose pour le pauvre arbitre occidental que j'étais.
Je vous remercie. Avant de passer la parole à Mme Prépastide-Bruguière, qui sur ce point-là certainement pourra nous éclairer, je vais me permettre de sauter dans le train, si je puis dire, parce qu'il y a dans cet arbitrage quelque chose qui m'a profondément choqué. C'est l'interprétation de l'article 121, paragraphe 3 de la Convention sur le droit de la mer. L'article 121, paragraphe 3 de la Convention sur le droit de la mer dit que les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre n'ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental. Ils ont donc une mer territoriale. Si je ne me trompe, la sentence arbitrale dit que le mot rocher n'a aucun sens et que, en réalité, il faut comprendre île. C'est ce que j'ai lu. Que ça n'a pas l'importance qu'on ait mis rocher. Ça s'applique à toutes les îles. Deuxièmement, donne une interprétation ensuite de ce qui est propice à l'habitation humaine ou à la vie économique extrêmement restrictive. Alors, j'y vois deux difficultés. La première, c'est que ça me paraît tout à fait contraire à la pratique des États. Ayant négocié moi-même autrefois des accords de délimitation maritime avec tous les voisins de la France, nous avons considéré qu'un certain nombre d'îles n'étaient pas des rochers et ouvraient droit à une zone économique, par exemple l'archipel des Chesterfield, que tout le monde connaît bien entendu. C'est un tout petit archipel à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, et qui est français. Et puis, si on devait interpréter cette jurisprudence au-delà du cas particulier, ceci voudrait dire concrètement que la France perdrait à peu près les deux tiers de son domaine maritime. À peu près les deux tiers. Les Kerguelen n'ouvriraient plus droit à une zone économique. Saint-Paul et Amsterdam non plus. L'île Crozet non plus. Clipperton non plus. Alors, est-ce que je puis vous poser la question de savoir s'il est raisonnable de penser qu'il ne convient pas de donner une interprétation trop générale de cette disposition et si elle ne vaut pas seulement dans les circonstances de l'espèce.
C'est une question importante dont nous avons longuement parlé au sein du tribunal, sans violer le secret du délibéré. Ça a certainement été une des affaires les plus importantes. Et la définition que nous avons donnée de l'île et du rocher dans l'article 121, selon l'article 121.3, enfin 121.1 et 121.3 de la Convention, dans notre sentence arbitrale, a été très, très précise et très mesurée. Première remarque, nous avons eu le plus grand mal à trouver des précédents. Curieusement. Il y a eu une longue pratique, mais en revanche, il n'y avait pas de précédent. Vous confirmez donc le résultat de nos vaines recherches en la matière. C'est assez curieux que, s'agissant d'une disposition de la Convention internationale, je le dis simplement de mémoire en me trompant, distingue le rocher et l'île. Le rocher n'a pas droit à une à autre chose qu'à une mer territoriale, comme n'importe quelle, comme n'importe quelle, pas au fond, je suis en train de, mais que n'a droit qu'à une mer territoriale, alors que l'île, elle, a droit à non seulement la mer territoriale, mais à une zone économique exclusive l'entourant, ce qui est tout à fait différent. Et donc, il n'y avait pas de... Alors, la distinction entre le rocher et l'île découle de l'article 121.3 de la Convention, mais qui est libellé d'une manière un peu ambiguë, et il s'agit de savoir s'il y a, au fond, une présence permanente ou non sur le rocher. Je simplifie un peu les choses. Je ne me souviens plus exactement des termes utilisés par l'article 121.3. Et il y avait donc lieu de clarifier la définition de l'article 121.3. C'est ce que nous avons essayé de faire. Visiblement, ce n'était pas l'interprétation qu'en aurait proposé le président Guillaume. Notre souci étant d'arriver à trouver un équilibre raisonnable entre une interprétation extensive qui, suivant le président Guillaume, amène à amputer les mers libres d'une grande partie de leur surface, ou une interprétation restrictive qui, en fin de compte, réduit à zéro la notion de zone économique exclusive, parce que le rocher n'aurait pas vocation à le faire. Et nous avons cherché à trouver cet équilibre, d'où la définition que nous avons essayé de donner du rocher et de l'île. Alors, le président Guillaume estime que cette définition est contraire aux intérêts de la France, tels qu'ils sont vus par la France, bien entendu. Mais ce n'est pas parce que la France a fait ses déclarations couvrant des zones très importantes des mers mondiales à partir de petits rochers éparpillés un peu sur tous les globes, qu'il y avait là à trouver une formule intermédiaire. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Je suis conscient que c'est une définition qui ne correspond pas à la politique française en la matière. Il y avait des positions tout à fait inverses et qui auraient réduit très sérieusement toutes les possibilités de zones économiques exclusives. Je ne suis pas d'accord avec vous d'ailleurs sur les Kerguelen. Je ne pense pas que les Kerguelen soient touchés dans cette affaire. Mais en revanche, nous avons des tas de petits rochers partout à partir desquels nous estimons que nous avons droit à nos 200 000 comme tout le monde, ce qui est quelquefois un petit peu abusif. Donc, ça a été en effet un cas important, et nous avons donc adopté cette formulation de cette interprétation de l'article 121.3 de la Convention, en sachant d'ailleurs qu'il poserait problème. Et pour ma part, je considère que ça a été une affirmation de notre tribunal, mais je ne me fais pas d'illusions, elle va susciter le débat, et si elle permet à la sortie d'arriver à faire avancer un semblant d'accord ou de consensus sur l'affaire, ce ne serait pas plus mal du point de vue plus général de la sécurité des relations internationales touchant le droit de la mer.
Vous ne poursuivrez pas au-delà, on en reparlera.
Je n'en doute pas, Monsieur le Président.
Je donne la parole à Madame Bastide Bruguet.
Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt cette communication. J'ai d'abord une petite remarque à faire sur ce que vous avez dit au début des moyens si prospères que possède la Cour internationale de justice. C'est probablement exact aujourd'hui, mais dans ses débuts, entre 1946 et pendant au moins 20 ans, les moyens n'étaient pas si considérables. Les juges écrivaient à la main leurs discours, leurs opinions et tous leurs textes. Il y avait une secrétaire pour un grand nombre de juges. Le greffe était très peu nombreux. Et parmi les 15 juges, La majorité, si on met dedans quand même le juge russe et le juge polonais, n'étaient pas des juges capitalistes. Hein. Donc, peut-être avaient-ils moins d'affaires qu'ils n'en traitent aujourd'hui, je suis incapable de le dire, mais les moyens n'étaient pas si considérables. La question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir combien d'États reconnaissent la juridiction de votre tribunal. J'ai eu le sentiment, d'après les réactions chinoises, qu'ils étaient prêts à vous nier toute compétence, alors que votre sentence récente a produit un grand effet interne, et je pense qu'un effet très salutaire. Pour ajouter sur ce que vous dites des difficultés de comprendre les conceptions internationales des Chinois, il faut savoir que pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, on divisait les terres, mais pas la mer. La mer n'a jamais été divisée, sauf en ce qui concerne les îles qui étaient tout à fait près du continent. Pour la définition, pour l'adoption du droit de la mer, il y a évidemment des difficultés. Mais votre sentence a été très utile. Enfin, peut-être vous êtes obligé de garder le secret des délibérations, mais j'aimerais savoir si, parmi les juges, vous avez beaucoup de discussions de principe sur l'élaboration de vos sentences ou de vos avis, et au fond sur l'esprit dans lequel vous construisez ce droit de la mer qui a besoin d'être précisé et d'être étendu. Donc c'est la question épistémologique du droit, et Madame Delmas-Marty n'est pas là, elle vous l'aurait posée.
Merci Madame. Quelques réponses rapides. D'abord, en ce qui concerne la Cour internationale de justice, ce n'est pas mon sentiment. La Cour internationale de justice a toujours eu davantage, proportionnellement, de moyens que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Même au début, à partir de 1946, vos chiffres sont exacts, mais ils sont supérieurs à ce que nous avons. Et j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu la question de mon côté. J'étais frappé par le fait que la Cour internationale de justice est quand même montée assez rapidement en puissance, si je puis dire, quant à ses moyens. Et dès la fin des années 50, c'était une belle mécanique qui fonctionnait et qui fonctionnait de manière assez importante. Par rapport à nous qui arrivons, donc en 1996, que la Cour, à ce moment-là, est déjà une belle machine, et qui, 20 ans après, restons encore une petite boutique. Alors la petite boutique, ça a de l'avantage aussi. Ça veut dire que les juges sont obligés de travailler, ce qui est déjà une bonne chose. Et plus généralement, qu'il y a, à partir de ce moment-là, une importance croissante pour le délibéré, avec l'inconvénient correspondant que c'est souvent du bavardage. Mais il y a là un équilibre qui est un équilibre différent. Je trouve quand même que nous sommes un petit peu en dessous de ce dont nous aurions besoin pour fonctionner plus efficacement, et notamment pour les capacités de recherche des juges individuels. Nous n'avons donc aucune assistance. Et la petite équipe de juristes, qui est excellente d'ailleurs, autour de Philippe Couvreur, elle est entièrement concentrée sur l'arrêt lui-même. Donc tout ça c'est un peu maigre. Et surtout, nous sommes un peu jaloux. Disons-le, pour être franc.
Un mot, je suis tout à fait d'accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit. Ceci étant dit, quand je suis arrivé à la Cour internationale de justice en 1987... Oui. Il n'y avait évidemment aucun assistant, il n'y avait pas de référendaire, il y avait une secrétaire pour deux juges. Oui. C'est donc dans la période où les affaires se sont multipliées, dans les années 80-90, qu'il y a eu à la fois le privilège d'avoir une secrétaire pour chaque juge, et finalement, après de longs débats budgétaires, un clerc pour chaque juge. Ce qui est plus que dans votre tribunal, je le reconnais, oui. Mais c'est arrivé assez tardivement tout de même. Oui.
Donc ça nous donne quelque espoir, si je puis dire. Donc dans 20 ans, je reviendrai vous en parler. Voilà. Sur la question de la mer de Chine, je crois que nous en avons déjà assez longuement parlé. Et je ne vois pas très bien quoi ajouter de nouveau. Je pense qu'il s'agit d'une étape, que c'est une contribution des juristes à une affaire en cours. Et je ne me fais pas d'illusions sur la solution et la sortie. Je constate cependant que la plupart des États voisins de la Chine ont quand même bien accueilli notre arrêt, et que cela peut plus généralement servir un peu de référence sur certains aspects. Et y compris du côté chinois, par exemple, je parlais de cette nine dash line, de ces neuf tirés. Je pense que la Chine a probablement et va probablement expliciter sa compréhension de cette ligne d'une manière compatible avec la Convention sur le droit de la mer. Donc je crois qu'il y a des effets indirects dans ce genre de décision, même si l'effet direct n'est pas évident, et il ne l'est pas du tout, malheureusement. Mais je crois que de ce point de vue-là, il y a quand même un effet qui peut être positif à terme. Et ça, mais ce n'est pas propre, d'ailleurs, à cette sentence-là. Enfin, sur les discussions de principe, oui.
Le problème, c'est, y a-t-il des États qui ne reconnaissent pas la juridiction du tribunal?
Est-ce que des États ne reconnaissent pas la... Oui. Je dirais que la juridiction... Qu'entend-on par juridiction? Il y a une reconnaissance générale de l'existence, évidemment, du tribunal, puisqu'elle est inscrite dans la Convention sur le droit de la mer, et que le statut du tribunal est une annexe de la Convention sur le droit de la mer, et on a la même valeur pour tous les membres de la Convention sur le droit de la mer.
Et qui n'a pas signé cette convention?
Les États-Unis, c'est tout. C'est tout. Autrement, le tribunal existe pour tout le monde. Mais il existe comme la Cour internationale de justice existe pour tous les membres de l'Organisation des Nations Unies. Encore faut-il accepter sa compétence, et ça c'est une autre affaire. Et sur l'acceptation de la compétence, donc il y a là un certain nombre d'États qui ont accepté la compétence d'une manière générale, et puis il y a ce que je vous indiquais sur la question des clauses compromissoires, avec ce problème qui est celui du retard dans l'apparition du tribunal international du droit de la mer, qui fait que la plupart des clauses compromissoires relatives au droit de la mer, antérieures en tout cas à 1996, ne faisaient pas référence à un tribunal qui n'existait pas. Donc là, nous avons un petit problème de retard par rapport à cela. Oui.
Je vous remercie. Monsieur Vacheron.
Pardon, alors...
Sur les discussions internes.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez répéter votre question, parce que je me suis un peu perdu, oui.
Oui. À l'intérieur du tribunal, dans la mesure où vous pouvez en parler, y a-t-il des discussions sur les directions que vous donnez à la création du nouveau droit de la mer? Y a-t-il des positions de principe vraiment différentes?
Il y a des sensibilités différentes. Il y a par ailleurs, mais nous suivons avec attention évidemment toute la littérature sur le droit de la mer, et nous avons des discussions générales qui sont plutôt des comptes rendus sur l'évolution du droit de la mer, des questions relatives au droit de la mer ou des publications relatives au droit de la mer. Nous avons cela dans le cadre de nos débats généraux que nous avons régulièrement, où nous réglons les affaires internes au tribunal, mais aussi à cette occasion-là où nous faisons le point sur les nouveautés du droit de la mer. Mais c'est très général et ça n'a pas de conséquences directes, je dirais, sur le délibéré lui-même.
Merci, Monsieur Vacheron.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez indiqué l'existence d'une chambre des fonds marins au sein du tribunal. Les compagnies pétrolières doivent-elles prendre contact avec votre chambre avant d'engager des prospections et d'utiliser les ressources?
Nous sommes un tribunal, et la chambre des fonds marins est un tribunal dans le tribunal, comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire qu'un tribunal réagit, il n'agit pas. Nous ne pouvons pas nous saisir de quelque chose. Nous avons à répondre aux questions qui sont posées. Et donc, de ce point de vue-là, nous n'avons pas de, nous n'avons pas de compétences pour nous orienter dans ce sens-là. Ça, c'est le propre de toute juridiction, en vérité, qu'elle soit interne ou internationale. Une juridiction répond aux questions qu'on lui pose, mais ne peut pas poser des questions par elle-même.
Je vous remercie. Monsieur Trichet.
Merci, Monsieur le Président, et merci pour cet exposé qui était très, très stimulant. Je vous rejoins, Monsieur le Président, sur cette question des intérêts français. Je lis dans beaucoup d'articles que nous avons 10 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives et que nous espérons d'ailleurs encore l'augmenter, ce qui en ferait la seconde, le second patrimoine du monde après les États-Unis, à peu près à ex-aequo avec la Grande-Bretagne, je pense. Alors, cela paraît gigantesque, et ce que nous venons d'entendre montre que le point de savoir si la force juridique de notre affirmation d'avoir un si grand territoire mondial au titre de la zone économique exclusive est peut-être contestable, peut-être contestée d'ailleurs. Et du point de vue du juge et de l'observateur mondial que vous êtes, quel genre de commentaire vous inspire ma question ?
Monsieur Trichet, je crains devoir maintenir ma position. C'est-à-dire, je crois qu'en effet, c'est très contestable et contesté. J'essaye pour ma part de limiter les dégâts, si je puis dire, au sein de mon tribunal, mais je suis bien isolé. Et je dois dire que... il y a de bonnes raisons à penser qu'une interprétation, qui est l'interprétation française du droit de la mer, aboutit à une amputation sérieuse de vastes domaines de la liberté des mers, avec tout ce que cela peut comporter, et donc contestable.
Puisque nous poursuivons, il y a tout de même... un premier point, c'est que ce n'est pas seulement une position française. C'est la position de toutes les puissances maritimes, la Grande-Bretagne, les États-Unis et toutes les puissances maritimes. C'est le résultat d'une pratique généralisée des États dans la délimitation de leurs frontières maritimes. C'est le résultat de la jurisprudence du Comité des Nations Unies sur les limites extérieures du plateau continental. Et par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse la caractériser comme une position exclusivement française. En second lieu, je ne crois pas que la position française porte atteinte à la liberté des mers, n'est-ce pas ? Puisque le seul problème, la liberté des mers, la liberté de navigation est assurée dans la zone économique. Il s'agit uniquement des problèmes de pêche et des problèmes d'exploitation du plateau continental. Ce sont ça les seuls problèmes qui se posent. Donc il n'est pas... La position française est celle, encore une fois, de la plupart des puissances maritimes et des pays développés, et bien celle-là. Alors, ceci étant dit, qu'il y ait une revendication de la part des États enclavés qui n'ont pas de côte, ou de la part de certains pays en voie de développement, c'est tout à fait clair. Mais je demeure persuadé que la motivation retenue est tout à fait malheureuse. Vous me disiez que ça ne touchait pas les Kerguelen. Vous avez dit dans votre arrêt que pour qu'une population puisse être considérée comme rentrant dans les prévisions de ce texte, il fallait qu'elle tire de l'île elle-même ses ressources. Par conséquent, il faudrait que les gens de la station météo aux Kerguelen aient leur potager et leur élevage. Sinon, les Kerguelen ne nous auraient droit à rien. Je trouve qu'il y a là une position un petit peu excessive.
Les conflits, les usurpations de territoires ou même de rochers, on les a connus dans les années 30. La Russie a donné un exemple récemment quant à sa frontière avec l'Ukraine et avec la Géorgie. Et là, nous sommes dans des questions beaucoup plus sérieuses que celles d'un organisme juridique relatif au droit de la mer. Nous sommes tout de même une véritable agression qui, pour le moment, ne crée pas de précédent immédiat, mais enfin qui est inquiétante, je crois. Il faut la prendre comme ça.
Oui,
partageons tous ce point de vue.
Je crois, oui.
Monsieur le grand rabbin Corsi.
Monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure que vous êtes chargé de répondre et pas de vous saisir, mais si je peux exciper du Deutéronome, parce qu'on m'a interdit tout à l'heure de déposer, je voulais déposer sur le bureau de l'Académie tout à l'heure Lucky Luke et la Terre promise, on me l'a interdit, j'espère que j'ai le droit de citer le Deutéronome. Deutéronome chapitre 16, verset 18, dit la chose suivante, je peux le dire en hébreu, c'est joli. Shoftim veshoterim, des juges et des policiers, tu mettras aux portes de tes villes, comme si s'il n'y a pas la possibilité de faire exécuter un jugement, ce jugement reste qu'une sorte de rêve, une théorie et pas une réalité. Comment vous faites appliquer vos décisions ?
Ça, comme tous les juges internationaux, c'est-à-dire nous ne faisons pas appliquer nos décisions. Nous n'avons pas la possibilité d'appliquer nos décisions. Nous disons le droit en espérant que ça servira un jour à quelque chose. C'est comme cela que je vois la question en ce qui me concerne. Et je voudrais tout de suite ajouter que la très grande majorité des décisions internationales, judiciaires internationales sont appliquées. Je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Alors qu'il y ait un certain nombre de décisions qui ne le sont pas, je ne suis pas sûr qu'en droit interne, ce soit toujours l'application automatique et immédiate des décisions judiciaires. Mais en tout cas, en droit international, nous sommes tous un peu logés à la même enseigne. Monsieur Guillaume comme moi, si je puis dire, avec tout le respect que je lui dois, c'est-à-dire que nous disons le droit et qu'il appartient ensuite aux États de faire que le droit s'applique. Et il s'applique très généralement. Quelquefois, il faut un peu de temps. Et de nouveau, je reviens à mon affaire de la mer de Chine. Je suis persuadé qu'avec le temps, notre décision sur la mer de Chine apportera un certain nombre d'éléments utiles pour la négociation, la solution finale du problème, si elle a lieu. Mais au-delà de ça, nous sommes totalement impuissants pour l'application de nos arrêts. Pas tout à fait, d'ailleurs. Si je puis juste donner une indication, le Tribunal international du droit de la mer a quand même, dans sa jurisprudence, marqué un certain souci du suivi en ne répondant pas simplement à la question posée, je reviens à notre discussion intérieure, mais en donnant des indications aux parties sur l'application possible de l'arrêt, en allant un peu plus loin avec la Cour internationale de justice sur ce point, en particulier dans l'affaire de la poldérisation qui opposait la Malaisie à l'Indonésie, nous avions à ce moment-là indiqué un certain nombre de mesures qui devaient être prises par les parties pour assurer l'application effective de la décision. Donc il y a un petit progrès là-dessus. Mais la règle générale, c'est que le juge ne se préoccupe pas de la suite.
Et je puis ajouter que le temps, effectivement, est un élément essentiel. Il y en a eu un exemple fameux, qui est l'affaire du détroit de Corfou, où des bateaux anglais avaient sauté en 1945 dans le détroit de Corfou. L'Albanie avait été déclarée responsable et condamnée à payer une indemnité au Royaume-Uni. L'Albanie n'avait pas payé. Elle a payé 40 ans plus tard. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, pardon, M. Béchler.
Une question naïve d'ignorant, qui est peut-être hors question. Vous avez bien précisé, au tout début de votre exposé, que les États-Unis ne reconnaissaient pas votre cour de justice. D'un autre côté, depuis 1945, règne à la surface du globe une manière de thalassocratie américaine. Est-ce que cela vous pose des problèmes ou est-ce que cela pose des problèmes ?
Nous regrettons évidemment que les États-Unis ne soient pas partis, car en effet, c'est une puissance maritime majeure. Je note que les États-Unis, n'étant pas partis à la Convention, reconnaissent que la Convention sur le droit de la mer est l'expression du droit international applicable. En d'autres termes, ils reconnaissent les normes, même s'ils ne sont pas partis à la Convention elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait majeur. Alors, pour le reste, évidemment, ils ne reconnaissent pas le tribunal. Ce ne sont pas les seuls. Et donc, ils se trouvent en bonne compagnie avec de nombreux États qui n'acceptent pas la compétence du tribunal et qui, donc, de ce point de vue-là, ne reconnaissent pas, comme c'est leur bon droit, la compétence d'une juridiction internationale. Mais ils ont reconnu que la Convention, elle, exprimait le droit de la mer tel qu'il est applicable et tel qu'il est obligatoire.
J'étais à Montego Bay, si je puis dire, et par conséquent, je me souviens très bien de l'attitude américaine. L'obstacle américain à la signature de la Convention n'est pas du tout dans le statut général des océans, qu'ils acceptaient tout à fait, c'était un compromis tout à fait acceptable. L'obstacle était uniquement sur le concept de patrimoine commun de l'humanité pour l'exploitation des nodules polymétalliques au-delà des zones économiques. C'est le point qui, pour eux, était inacceptable. Et c'est un point qui, évidemment, est un point très, très, très spécifique, qui ne touche pas dans la réalité des choses au fonctionnement quotidien du droit de la mer.
Monsieur le Président, oui, si je puis ajouter... Les administrations américaines successives, démocrates et républicaines, ont reconnu que la Convention sur le droit de la mer faisait droit. Et la seule raison, semble-t-il, pour laquelle les États-Unis n'ont pas, à ce jour, pu devenir partie à la Convention sur le droit de la mer, c'est qu'il y a au sein du Sénat américain un petit groupe d'irréductibles, très opposés à ce qu'ils perçoivent comme une limitation des droits des États-Unis sur les mers, un tout petit groupe, mais ça suffit pour bloquer les choses. Nous savons comment fonctionnent les assemblées, notamment le Sénat américain. Il n'y a jamais assez de volonté. Il faudrait en faire une priorité. Et le gouvernement américain a d'autres chats à fouetter qu'à faire une priorité de la ratification formelle, je dirais, quelque part, de la Convention. Donc, le gouvernement américain reconnaît de nouveau que la Convention dit le droit et ne considère pas comme nécessaire de laisser tomber le Obamacare ou je ne sais pas quoi pour pouvoir faire passer la Convention. C'est un peu cela. En termes parlementaires, c'est en ces termes-là que ça se pose aux États-Unis.
Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non, ben écoutez, il me reste à vous remercier très vivement, à la fois pour ces indications sur la Convention, sur le tribunal et même sur l'arbitrage de mer de Chine.
Merci, Monsieur le Président, et merci pour cet honneur et ce plaisir d'être avec vous.